Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'écrivain et historien Yves Mervin. Alors, vous venez de publier un nouveau livre sur l'histoire de la Bretagne. Cette fois-ci, c'est la Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale et un ouvrage consacré à un homme dont le nom fait parfois polémique chez certains. C'est Jean-Marie Perrotte, donc l'abbé Perrotte. Vous parlez d'un crime communiste. Alors, on ne va pas aller déjà jusqu'au bout. On va déjà commencer par le début parce que je suis sûr qu'il y a 90% des auditeurs, de ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ne connaissent pas le nom de l'abbé Perrotte. On va peut-être rappeler. Et ceux qui le connaissent, dans les 10%, vous avez une grande partie qui va vous rétorquer. Oui, j'ai entendu son nom, c'était un curé qui collaborait avec les nazis. Voilà ce qu'on va vous dire. Alors, que diriez-vous pour corriger cela et peut-être être un peu plus juste, Yves Mervin?
Alors, l'abbé Jean-Marie Perrotte, qui est né à la fin du 19e siècle, a développé une très grande activité tant religieuse que culturelle. Il est devenu prêtre après avoir suivi l'école des frères de Guingamp et il a été ordonné à Quimper, je crois que c'est en 1920. Il a été affecté dans un premier temps dans le Léon et ensuite il a été affecté dans la commune de Scrignac, dans les montagnes. Donc il a développé beaucoup d'activités culturelles. On lui doit le Barzaz Broléont, c'est donc un recueil de chants, de poèmes traditionnels bretons dans le Léon. On lui doit en particulier la revue, l'animation de la revue Feis à Brest, donc Foi et Bretagne en français. Donc c'est une revue qui parlait aussi bien de religion que d'aspect culturel ou de la vie qui se déroulait dans le Léon à ce moment-là. Et puis on lui donne aussi l'animation du Blunbruck. Le Blunbruck, c'est en français fleurs de bruyère, et donc c'était des fêtes qui à l'époque représentaient des événements culturels et religieux avec des messes bien sûr, qui étaient très importants et qui drainaient une foule assez importante. Et il avait donc développé une influence très importante, même s'il est resté simple prêtre et recteur, il avait quand même une aura qui dépassait largement son lieu de prédilection.
Est-ce qu'on peut faire, on peut comparer finalement l'influence culturelle, l'aura de l'abbé Perrotte, à par exemple à ce que aurait pu être, à ce qu'a été l'aura de l'abbé Pierre en France après la Seconde Guerre mondiale?
Oui, la comparaison est justifiée. Alors, il y en a d'autres qui le comparent à Saint-Pierre. À Saint-Yves plutôt, le patron des Bretons. Alors Saint-Pierre, ça ferait un peu beaucoup. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui avait une aura. Alors, on a eu une conférence récemment, et il y avait une dame qui avait 13 ans en 1944 à Scrignac, qu'il a bien connue. Et ce sont toujours les témoins qui ont connu l'abbé qui en parlent avec le plus de ferveur et de reconnaissance.
Finalement, on dit de l'abbé Perrotte, mais dans tout ce que vous dites, on le sort finalement d'un rôle traditionnel de curé. Je dirais plutôt que c'était un homme de culture, un influenceur, un défenseur de la Bretagne historique.
Oui, avant tout. Un influenceur certainement, oui. Oui. Oui, bien sûr. Alors malheureusement, on ne connaît son nom qu'à travers le fait qu'il a été assassiné en 1943.
On va revenir là-dessus.
Et bien évidemment, oui.
Qui est le titre de votre livre, mais votre livre va aussi bien au-delà. Alors si on parle, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui découvrent toute cette période, évidemment, Yves Mervin.
Oui.
Je vais reprendre le fil de mon raisonnement. Quand on parle de l'abbé Perrotte, donc on reste encore dans le cliché, c'est le curé qui a collaboré avec les Allemands et une partie des indépendantistes ou des autonomistes bretons, on va les mettre, voilà, ont collaboré avec les Allemands parce que les Allemands étaient les ennemis de la France et l'ennemi de ton ennemi et devient ton ami. C'était un peu le résumé que l'on pouvait faire, que l'on vous retranscrit sur cette époque. Vous l'entendez en permanence. Que répondez-vous à cela, vous qui êtes historien ?
Alors, pourquoi j'ai mis le sous-titre Un crime communiste qui résume très bien la thèse de mon livre, ça c'est assez bien ciblé. C'est parce qu'il y a une thèse concurrente qui voudrait que ce soit Londres, c'est-à-dire les gaullistes qui soient à l'origine, mais ça c'est une version de diversion, si je peux dire, parce qu'elle est totalement démontée dans mon livre. Donc c'est le Parti communiste et c'est le seul Parti communiste qui est bien à l'origine. Alors bien évidemment, on entend dire que l'abbé Pérotte aurait été un collaborationniste. Alors je prends un exemple. En juin 1943, les Allemands qui s'attendent au débarquement donc prédispose des divisions près des côtes, et il y en a une qui vient dans la région de Wilgoat, et un régiment qui s'installe comment dire à Skrignac, dans le presbytère là où habite le curé et sa caravassène, et puis dans les écoles aussi, quoi. Donc on présente ça comme si ça avait été un fait de collaboration, mais lui, il n'a rien demandé. Les Allemands étaient là, et la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les Allemands étaient là?
Oui, mais est-ce que finalement, ça fait aussi partie de l'objet de vos travaux, vous avez
Oui.
parlé dans des précédents ouvrages, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'intoxication après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était facile et ça rendait service finalement, de faire croire que tous les patriotes bretons, voilà, qu'ils soient indépendants, étaient des collabos? Ce qui permet de mettre le couvercle sur toute nouvelle velléité d'indépendance.
Ben, disons que la collaboration, c'est une politique du gouvernement français vis-à-vis du vainqueur allemand, à l'initiative en particulier du maréchal Philippe Pétain. Bon, alors quand la collaboration se met en place, ça veut dire que le rêve de quelques autonomistes ou indépendantistes bretons d'avoir un État libre, ça s'évanouit à ce moment-là, quoi. Donc, par conséquent, ils sont les victimes de la collaboration. Donc dire qu'ils sont des collaborationnistes, c'est un contresens énorme.
Oui, c'est-à-dire
Alors on peut
cette
dire qu'ils
thèse,
avaient.
l'ennemi de ton ennemi devient mon ami, elle ne tient pas, puisque ce nouvel ennemi ne veut pas pour autant une Bretagne indépendante.
Comment dire, les autonomistes bretons, quand les Allemands sont arrivés, ont été écartés à partir du moment où la France avait proposé la collaboration à l'Allemagne. Une des conditions de cette collaboration, c'était qu'il y ait conservation de l'intégrité du territoire et en particulier que la Bretagne ne soit pas séparée de la France à ce moment-là. Donc, par contre, quand ça s'est décanté cette situation, eh bien, les nationalistes bretons ou les indépendantistes ont bénéficié de ce qu'on appelle une protection culturelle, c'est-à-dire qu'ils ont pu avoir accès à la radio, ils ont pu avoir accès des journaux, créer des manifestations. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que le mouvement culturel breton a énormément progressé pendant cette occupation. Mais ça ne signifiait absolument pas une collaboration ou une adhésion aux thèses nazies en particulier. Ça n'avait rien à voir.
Oui, ça vous faites bien de le préciser. Hein, voilà. Et je vous retrouve avec Yves Mervin, vous êtes historien, votre nouveau livre s'appelle Jean-Marie Pérotte, Un crime communiste. Le titre, c'est très important parce que vous racontez aussi, vous nous permettez de comprendre à quel point Jean-Marie Pérotte était vraiment un anticommuniste, j'allais dire presque primaire.
Oui, alors anticommuniste, il était, ça c'est certain qu'il était anticommuniste. Primaire, en général, c'est le Parti communiste qui rajoute primaire, ça veut dire primaire, c'est
Oui, mais moi je
dans
voulais
les
dire
communistes.
viscéral, voilà.
Oui, alors
Ça
c'est
passait pas.
encore. Viscéral, ça veut dire que ce sont les tripes qui parlent,
Bon,
alors
bah
que
là,
là,
je
c'est
tombe
plutôt
dans le
l'intellect.
piège, oui. Oui, de la même manière que l'on dit, c'est un ultra-libéral, quoi. Voilà, pour un peu caricaturer. Bon, enfin, il
Oui,
n'aimait pas
c'est
les
ça.
communistes. Il avait dénoncé les crimes du communisme.
Oui, c'est-à-dire qu'il avait des informations qui venaient de la Russie, qui faisaient état de toutes les persécutions de l'Église orthodoxe par les bolcheviks, les léninistes, puis les staliniens. Donc ce sont des prêtres qui ont été tués, déportés, soumis à des travaux forcés. Donc les persécutions de l'Église orthodoxe étaient connues à cette époque-là, et l'abbé Jean-Marie Perrotte en a fait état dans sa revue Faits à Braise que j'ai citée. Alors le problème, c'est que ben il était en avance sur son temps, parce qu'aujourd'hui c'est tout à fait reconnu, mais en fait dans sa revue on ne peut pas l'accuser d'avoir écrit des fake news. C'est une réalité qui est tout à fait certifiée aujourd'hui.
Alors, c'est pas un énième livre sur l'abbé Perrotte, comme vous dites, c'est aussi un livre sur l'époque, sur cette photographie de la Bretagne à cette époque, la situation politique. Mais quand on vient sur le crime communiste, c'est même un crime prémédité. Alors, quelle est votre analyse et où vos travaux vous ont mené, Yves Mervin?
Alors, moi, ma thèse, c'est que en 1943, le Parti communiste espère à la libération prendre le pouvoir. Alors, ça, c'est la traduction du slogan léniniste, transformer la guerre impérialiste en révolution prolétarienne. Et ça a marché en 1917 en Russie, c'est-à-dire que la guerre entre les deux empires allemands et russes s'est arrêtée lors de cette révolution, et après ils ont pu mettre en place une société communiste dont il rêvait. Et c'était ce dont rêvait le Parti communiste français à cette époque-là, précisément en 1943. Alors, une des difficultés pour avancer cette thèse, c'est qu'en 1944, un an après, les communistes n'ont pas pris le pouvoir, pour différentes raisons. D'une part, parce que lorsque les Allemands partent, ce sont les Américains qui arrivent. Dans le sillage des Américains, il y a les gaullistes qui, eux, prennent les préfectures. Et une autre raison aussi, c'est qu'à ce moment-là, Staline, qui est en fait le grand orchestrateur de l'action du Parti communiste, est indécis. Il observe comment se passe le débarquement. Il constate que les Américains ont débarqué et que le front, donc à l'ouest, s'est ouvert. Et à ce moment-là, il constate aussi que les gaullistes ont pris le pouvoir, et le mot d'ordre qui sera donné donc à Maurice Thorez, c'est de dire, le mot d'ordre, c'est un seul État, une seule armée, une seule police, c'est-à-dire que vous faites ami-ami avec les gaullistes. Il n'est plus question de lancer la révolution prolétarienne. Et ça, c'est Staline qui l'a dit à ce moment-là, c'est en octobre, novembre 1944.
Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vous placez finalement l'abbé Perrotte non pas comme un personnage, comme une personnalité régionale, mais aussi comme une personnalité nationale, avec une forte influence contre cette prise de pouvoir du Parti communiste. Là aussi, c'est une nouvelle approche.
Moi, je n'ai pas forcément le sentiment comment dire, de révéler des choses. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Par
Oui, mais
contre,
si vous faites un
j'ai les
sondage dans la rue. Yves, vous
oui.
faites un sondage dans la rue, les gens, les gens qui connaissent encore le nom de l'abbé Perrotte, qui ont été un peu sous influence culturelle, vont vous dire que c'était un petit curé breton qui collaborait.
Oui, bien sûr, mais cette accusation de collaboration n'a aucun sens. On l'a aussi accusé
Voilà, c'est pour
d'avoir.
ça qu'il est important de vous entendre et de lire votre livre qui est
Oui, bien
documenté.
sûr. C'est bien pour ça que j'ai écrit le livre aussi. C'est-à-dire que on l'accuse aussi d'avoir dénoncé des résistants. Oui, mais quel résistant, à qui, quand? Voilà. Il y a aucun élément concret qui n'a été donné parce qu'il n'y a tout simplement pas d'élément concret. Par contre, l'accusation, elle est dite, redite, propagée par beaucoup de gens. Et ça va continuer, d'ailleurs, malgré mon livre, hein, parce qu'il faut pas trop se faire d'illusions. Je pense qu'il va marquer quand même une petite étape dans cette évolution de la mémoire. Mais bon, ça va encore continuer. Il y en a qui
J'allais dire même
n'aiment
une grande
pas.
étape, oui.
Oui, pour l'abbé Perrotte, je pense que c'est quand même une étape assez forte.
Quel message souhaitez-vous que l'on retienne?
le message globalement, c'est que, alors moi j'accorde une importance au fait, à ce qui s'est passé, et aux leçons que l'on doit en tirer. Et si ça remet en cause, disons, toute la légende de la résistance, bah tant pis, hein, c'est voilà, c'est les faits. Si on ne s'attache pas, si on ne s'attache pas à bien comprendre les faits, on ne comprend pas le passé. Et le problème, c'est qu'on est moins bien armé pour l'avenir aussi. Donc, quand on raconte des histoires à nos enfants qui ne sont pas exactes, eh bien, on leur pourrit leur avenir, si je peux dire. Ça, c'est important.
Ce qui est aussi important de dire, c'est que votre livre dérange, donc il doit y avoir beaucoup de vérité s'il dérange à ce point-là, qu'au point que des associations d'extrême-gauche demandent parfois l'interdiction de vos conférences. Évidemment, elles ne sont pas suivies.
Oui. Alors, d'abord, moi, je m'appuie sur l'ouverture des archives. L'ouverture des archives... s'est effectué entre 2005 et 2015. En 2005, il fallait demander des dérogations pour consulter certains dossiers. En 2015, maintenant, c'est depuis cette époque librement communicable. Donc n'importe qui peut aller dans les archives là où je suis allé, et donc je donne le numéro des cotes d'archives. Chacun peut aller voir où je suis allé chercher mes informations, quoi. Donc, écrire l'histoire avant l'ouverture des archives, c'est avoir pris beaucoup de risques. Et je pense même qu'il y a certains historiens qui devraient un peu revoir ce qu'ils ont pu écrire. Alors, effectivement, quand on trouve ce qu'on trouve dans les archives, si d'ailleurs ça a été censuré pendant plus de 60 ans, c'est bien qu'on trouve des choses qui ne sont pas très, très ragoûtantes, quoi. Je suis parfois accusé de salir la résistance, mais le problème, c'est pas moi qui salis ou qui nettoie. C'est ce que je trouve, je le trouve, si vous voulez. Donc la réalité, c'est ce qu'elle est, quoi.
Malheureusement, beaucoup de gens ont l'habitude de parler avant d'avoir consulté les archives, ou avant d'avoir consulté un mode d'emploi, ou avoir consulté la réalité des faits. Et on le vérifie de plus en plus à notre époque. Voilà. C'est une maladie de l'époque.
C'est difficile. En fait, ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui, ça s'appelait des bobards quand j'étais un peu plus jeune. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux permettent d'amplifier ce phénomène de bobards, quoi. Alors, c'est effectivement très difficile pour les uns et les autres de savoir comment distinguer le vrai du faux, ce qu'il y a lieu de retenir ou pas. Ça, c'est une des difficultés pour notre époque et puis pour les générations qui arrivent. Ça, c'est très difficile.
Merci Yves Mervin de nous avoir parlé de votre nouveau livre. Le titre, c'est Jean-Marie Perrotte, Bretagne 39-45, 12 décembre 1943, un crime communiste.
C'est moi qui vous remercie. Merci.